Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, nous allons retrouver la revue Esprit comme chaque mois dans ce nouveau numéro du magazine qui interroge celles et ceux qui pensent le monde. La revue Esprit qui consacre son numéro de mai à Paul Ricoeur et plus précisément à la question de l'imagination chez ce philosophe. Rappelons que ce penseur était proche de la revue fondée en 1932 par Emmanuel Mounier. Michael Fossel, philosophe lui-même, est proche d'Esprit, professeur à l'école polytechnique, spécialiste de l'auteur de La mémoire, l'histoire, l'oubli, nous en parlera. Dans toute son œuvre, Ricoeur développe une tension entre l'imagination qui reproduit le réel et celle qui nous ouvre la voie vers le réel, note-t-il dans ce numéro 509. Dans la seconde partie de l'émission, nous évoquerons ce que l'on pourrait appeler la philosophie du bambou avec Jeanne Van Tramme qui vient d'écrire « Révolution bambou », un essai publié aux éditions Les Équateurs. Le bambou peut nous aider à développer des manières d'être au monde plus harmonieuses et plus durables, écrit-elle. Voici donc le menu de ce nouveau numéro d'Idées, un magazine que vous pouvez retrouver sur l'application RFI Pure Radio, par exemple, ou sur le site de la radio et votre plateforme numérique préférée. Bonjour Michael Fossel.
Bonjour.
Bonjour Jeanne Van Tramme.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio. Nous allons converser ensemble. Michael Fossel, donc Paul Ricoeur, Les pouvoirs de l'imagination, c'est le titre du dossier de la revue Esprit ce mois-ci. Esprit, comprendre le monde qui vient, c'est la devise de cette revue que nous aimons beaucoup, nous sommes partenaires. Michael Fossel, il faut expliquer d'abord pourquoi la revue, ce numéro 509, s'intéresse précisément à l'imagination. C'est parce qu'il y a un livre qui vient d'être publié.
Oui, effectivement, c'est un livre posthume, évidemment, oui. Puisque Paul Ricoeur est mort il y a une vingtaine d'années, mais c'est un livre qui est un cours. Et Paul Ricoeur était un philosophe important, il me semble, mais c'était aussi, peut-être d'abord, un très grand professeur. Il a donc consacré une grande partie de son activité à faire des cours dans des universités diverses, mais celui-ci, le cours qui s'appelle donc l'imagination, est un cours qu'il a fait dans les années 70 à Chicago, hein, donc on est après 68, Ricoeur était professeur à l'université de Nanterre. Il a quitté la France au début des années 70 pour aller enseigner aux États-Unis. Et effectivement, c'est un cours qui a cet intérêt de porter sur, qui s'appelle l'imagination, donc de porter sur une faculté, je pense qu'on y reviendra, une puissance de l'homme, celle de faire des images de ce qui est absent, et qui a cet intérêt, ce cours, d'être en quelque sorte aussi une introduction à son œuvre en général, car c'est une œuvre assez difficile, assez varié dans ses thèmes, mais dont on peut penser que le fil conducteur, c'est la question de l'imagination. Et j'insiste aussi sur la date, hein, 75, on est donc très peu d'années après 68, et la revue Esprit a donné comme titre Les pouvoirs de l'imagination. Bon, ben, en 68, on voulait mettre l'imagination
oui, au pouvoir
et d'une certaine manière, c'est une réflexion aussi, ce cours de Ricoeur, sur la puissance de l'imagination dans le champ du politique, dans le champ du pratique, et dans une époque comme la nôtre, qui peut-être manque d'imagination, ça paraît peut-être aussi intéressant de réfléchir à cette notion.
Michael, ce livre a été publié aux éditions du Seuil, je le précise, hein, c'est cours de 1975 sur l'imagination. Je renvoie aussi nos auditeurs à la biographie que lui a consacrée Olivier Mongin il y a déjà quelques années, c'est toujours disponible en poche aux éditions du Seuil. Alors, je compte sur vous pour nous expliquer un peu Paul Ricoeur en 30 minutes. Je fais appel à votre expertise. Et, il faut d'abord rappeler ce que vous disiez à l'instant, il est l'auteur d'une œuvre de réflexion variée. Il n'y a pas un Paul Ricoeur sur un thème. Il y a différents thèmes.
Il y a différents thèmes. D'abord, c'est une œuvre au long cours, puisque Paul Ricoeur a vécu 90 ans et qu'il a énormément écrit, beaucoup
1913,
lu et beaucoup
2005.
Écrit. Voilà. Et c'est une œuvre qu'on ne pourrait pas définir effectivement par ses objets. Je veux dire qu'il a écrit sur la question de la volonté, la question du mal, mais aussi la question du texte, du roman, de la fiction, la question de la métaphore et du sujet. Hein. Son livre peut-être le plus connu s'appelle « Soi-même comme un autre ». Alors en général, quand un philosophe a, et d'ailleurs la plupart des grands philosophes ont plusieurs thèmes, c'est qu'en revanche, ils ont une méthode, une manière d'interroger les choses. Et pour le dire le plus rapidement possible, Paul Ricoeur, c'est un philosophe qui essaie de comprendre le réel ou de comprendre ces thèmes que j'ai indiqués à travers le détour des textes ou des symboles, c'est-à-dire au fond à travers une méthode qui s'appelle l'herméneutique. Et l'herméneutique, c'est une doctrine, une méthode pardon, qui consiste à interpréter les textes et à faire à partir, par exemple, si je prends un seul exemple, son grand livre sur le mal, qui s'appelle « La symbolique du mal », c'est une réflexion sur le mal, la faute, la culpabilité, mais qui passe par une lecture et une interprétation des textes mythiques ou bibliques qui portent sur cette notion, en particulier la Genèse.
Michael Fossal, puisque nous parlons d'herméneutique, je vous propose d'écouter ce que nous disait il y a peu dans cette émission le philologue et philosophe Heinz Wiesmann, qui est un expert en la matière. Il est d'origine allemande. Il est avant tout un citoyen de l'Europe et dans l'émission, il nous a expliqué ce qu'est l'herméneutique selon lui.
Ben, l'herméneutique, je ne vais pas faire un petit cours parce que c'est assez long. Ce qu'on a retenu, parce que c'est un terme qui est utilisé par Aristote déjà, pour dire que nous traduisons nos émotions et nos pensées en mots. Alors les mots sont déjà premier objet de l'herméneutique, puisqu'il s'agit de les comprendre. Et dans la mythologie grecque, même si c'est une fausse étymologie, on attribue cet art herméneutique au messager des dieux, Hermès, parce qu'il est porteur d'un message, et en même temps, il interprète, à la demande de ceux à qui le message est destiné, il interprète le message. Et là, il est relativement fourbe, parce que les interprétations sont évidemment aussi des manières d'influencer ceux à qui un message est adressé. Alors, cette histoire de l'herméneutique prend toute son importance au moment de la Renaissance italienne, quand, à cause des Turcs qui ont pris Byzance, il y a eu un afflux de riches Byzantins en Italie, avec leurs bibliothèques, dans lesquelles se trouvaient des ouvrages de l'Antiquité donc, reculée, que l'on ne pouvait pas lire avec les principes exégétiques développés par l'Église. Parce que les exégèses bibliques partent de points de doctrine pour lesquels on trouve ou cherche des références dans le texte biblique. Et donc, on a la clé déjà au départ et on cherche juste la preuve qu'elle est bonne. Alors qu'avec ces textes d'auteurs comme Platon, etc., des tragiques, Sophocle, etc., on n'a aucune idée de quoi ça parle. Et donc on est obligé d'inventer une technique qui permet de déterminer, avec donc, une certaine approximation au départ, de quoi il s'agit. Et donc l'herméneutique est ce procédé par lequel on met en route le cercle herméneutique, c'est-à-dire hypothèse, vérification, nouvelle hypothèse, nouvelle vérification. Et ça tourne un peu en rond pour cerner le point central d'une œuvre. Et donc l'herméneutique, c'est la philologie des œuvres. Alors qu'il y a des philologies médicales, juridiques, tout ce que vous voulez. Alors, l'herméneutique est donc une sorte de, c'est une partie de la philologie qui se concentre sur le sens qu'un auteur a voulu communiquer dans une œuvre.
L'herméneutique, selon Heinz Wiesmann, donc Michael Fossol, qui caractérise donc Paul Ricoeur également cette analyse jusqu'au fond du texte pour en retrouver en quelque sorte le sens aussi.
Alors, oui, ça va, la définition qu'il donne lui, à l'herméneutique, Ricoeur, je veux dire, est peut-être plus large que celle que l'on vient d'entendre, en ce sens que, bien sûr, il s'agit d'interpréter un texte, c'est-à-dire d'essayer de renouveler le sens ou de découvrir le sens qu'il porte, et surtout d'actualiser ce sens, au-delà de l'exégèse plus historique, qui consiste simplement à le replacer le texte dans son contexte. Mais c'est plus large chez Ricoeur, parce que pour lui, au fond, finalement, l'homme, c'est l'animal interprétant. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, il n'y a pas que les textes comme tels, il ne s'agit pas de faire de la critique ni philosophique ni littéraire pour Ricoeur, mais de déchiffrer la condition humaine, si je puis dire, à partir des signes de discours, des textes non seulement, mais aussi des œuvres dans lesquelles l'expérience humaine est déposée. C'est cette idée que nous n'avons pas d'accès direct à nous-mêmes, c'est ça, c'est peut-être une des thèses centrales de Ricoeur. Je n'ai pas une conscience de mon essence, je suis un être aussi de tradition, inscrit dans une culture, et par conséquent, pour accéder à ce que je suis obligé de faire un détour par l'ensemble des non seulement des œuvres, mais aussi des institutions, des croyances et des images, puisque c'est le thème qui nous réunit aujourd'hui, qui apparaissent dans le contexte de mon expérience. Je ne suis pas le mieux placé pour savoir directement qui je suis. Je dois d'abord m'en référer à des significations qui sont déposées dans les œuvres qui m'entoure.
Donc on va parler de l'imagination dans un instant, mais Michael Fossel, on parle souvent de Paul Ricoeur quand il s'agit de la mémoire, de l'oubli et de l'histoire, pour reprendre des termes qu'il a étudiés.
Bah, la mémoire, l'histoire, l'oubli, c'est son dernier grand livre, ouais, hein, qui paraît en 2000, qui est un peu la somme de son travail. Mais précisément, c'est déjà dans le titre, la mémoire, ou l'insistance sur ce thème de la mémoire, qui n'est pas sans lien d'ailleurs avec l'imagination, puisque la mémoire et l'imagination, ce sont deux facultés qui permettent de rendre présent l'absent. Quand je me souviens, je rends présent un absent qui a été, le souvenir, le passé. Lorsque j'imagine, je rends présent un absent qui n'a jamais été, puisque d'une certaine manière, on y reviendra, je forge une nouvelle image. Mais la mémoire, l'histoire, l'oubli, c'est aussi un livre qui se pose la question de savoir quel est le rapport que j'ai avec mon propre passé, à la fois mon passé biographique et le passé historique de la culture dans laquelle je vis. Et la thèse de Ricoeur, et évidemment je la résume ici à outrance, mais puis c'est un livre qui fait 4 ou 500 pages, mais la thèse de Ricoeur consiste à dire, je n'ai pas une mémoire directe de moi-même. Peut-être l'illusion d'ailleurs des fanatiques de l'origine, c'est de croire qu'ils ont un accès direct à leur propre source ou à leur propre racine. Si je réfléchis à mon passé, je répète, de sujet individuel, mais aussi de membres de Français, par exemple, d'Européens, je suis obligé de faire le détour par des traditions de pensée, par des cultures diverses, variées. Et puis d'ailleurs, dans le titre « La mémoire, l'histoire, l'oubli », il ne faut pas oublier le dernier terme, c'est que Ricoeur, d'une certaine manière, à ce moment-là, on est déjà dans une... C'est écrit, le livre date de 2000, mais il y avait déjà des passions identitaires très fortes qui commençaient à s'imposer dans le monde, et aujourd'hui, elles sont très dominantes. Ricoeur réhabilite aussi la fonction libératrice de l'oubli, hein, c'est-à-dire de cette capacité que j'ai à ne pas être simplement le prisonnier de mon passé, ne pas être condamné par mon passé, par ma tradition, par ma culture, pourquoi pas même par mon ethnie, à devoir répéter les mêmes poncifs ou à devoir me soumettre à des normes que je n'ai pas choisies.
« suite de cette première partie d'idées, et nous parlons de Paul Ricoeur et des pouvoirs de l'imagination avec Michael Fossel à l'occasion de l'apparition du numéro d'Esprit du mois de mai. En introduction du dossier consacré au pouvoir de l'imagination, Michael Fossel, Azadeh Thiriez Arjanghi écrit ceci: la question de l'imagination n'a cessé de préoccuper Paul Ricoeur tout au long de son itinéraire philosophique. C'est une sorte de fil rouge ?
C'est un fil rouge, mais qui n'a jamais vraiment explicité comme tel dans l'œuvre qu'il a publiée, je veux dire, de son vivant, dans ses livres. Ce qui rend d'ailleurs ce cours qui s'appelle l'imagination intéressant, c'est qu'il permet en quelque sorte d'unifier l'œuvre. On a souvent reproché à Ricoeur d'être plutôt, ceux qui l'aimaient moins que moi, ou que ceux qui ont participé à ce dossier, ou aimaient moins sa pensée, d'être un philosophe, non pas touche-à-tout, mais qui était un grand lecteur, mais qui n'avait pas d'unité en fait dans sa pensée. Or, en effet, l'imagination est certainement un fil conducteur, puisque dès les premiers travaux, les premiers textes, sa thèse d'ailleurs, qu'il consacre à la question de la volonté, puis à la question du mal, la question des symboles dans lesquels se dit par exemple la faute, la culpabilité, le symbole de la souillure, le symbole du péché, eh bien Ricoeur, le symbole, ça évoque déjà l'imagination, se pose la question, au fond sa thèse, je dirais, c'est que nous ne pouvons pas penser sans nous faire une image de ce que nous pensons. Dès lors que je me représente une faute, une culpabilité, si on prend seulement ce thème, qui est donc le premier que Ricoeur a étudié, d'emblée, tout un flot d'images est associé, la souillure par exemple, la tache, si on pense à la faute. Alors, cette dimension, j'emploie un terme un peu technique, iconique, icône, image, la pensée est iconique, nous avons besoin d'images pour penser, ça c'est véritablement un fil conducteur de l'œuvre de Ricoeur, parce que la plupart du temps les philosophes considèrent que c'est un défaut. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir penser sans images. Par exemple, lorsque l'on pense sur tous les grands objets de la philosophie, comme Dieu, par exemple, il s'agit de ne pas s'en faire d'images, comme c'est d'ailleurs déjà indiqué dans la Bible. Parce que l'image est trompeuse. Alors Ricoeur, d'une certaine manière, réhabilite l'image tout au long de son œuvre, parce qu'il en fait une puissance créatrice. Nous ne sommes pas seulement prisonniers des images dont nous héritons, mais l'image, c'est aussi cette chose, cette quasi-chose sur laquelle nous pouvons, ou à partir de laquelle nous pouvons penser plus et penser davantage.
Et dans le dossier, Jérôme Poré insiste, lui, sur l'importance de la métaphore.
Oui, alors la métaphore, en revanche, a fait l'objet d'un livre de Ricoeur qui s'appelle « La métaphore vive ». Alors, la métaphore, c'est d'abord une figure stylistique, donc ça appartient à la critique littéraire ou à l'étude du style littéraire. Mais ce qui intéresse Ricoeur dans la métaphore vive, celle qui est vivante, pas celle qui est simplement déposée dans le texte, c'est qu'elle accroît notre perception des choses. C'est-à-dire que par une image, justement, par exemple, pour prendre l'exemple d'Aristote d'ailleurs, que Ricoeur commente, quand je dis la vieillesse est le soir de la vie. C'est une métaphore, puisque je parle de la vie ou d'un âge de la vie, et la métaphore consiste à aller chercher dans un autre univers de sens le moyen d'éclairer le premier registre. Et cet autre univers, dans le soir de la vie, c'est évidemment la journée. On compare une vie à une journée, puis la vieillesse, évidemment, c'est le soir, et donc on part hypothèse, la nuit, c'est la mort. Alors, dans cette métaphore, qui est pourtant là très simple et même peut-être un peu basique, ce qui intéresse Ricoeur, c'est que le langage poétique ici, la métaphorique en tous les cas, me permet de voir la vieillesse autrement que je ne la vois dans le langage ou par le langage littéral. Puisque tout d'un coup, je compare ma vie à une journée, je vois que la vieillesse se ressemble au soir, et le soir, évidemment, est entouré de toute une série d'images, le coucher du soleil, le temps qui commence aussi à devenir un peu plus frais, la peur liée peut-être à l'obscurité qui tombe sur nous. Et au fond, la tentative de Ricoeur, dans la métaphore vive, mais aussi dans ce cours sur l'imagination, c'est de montrer que, même sur un exemple aussi simple que celui-là, le langage poétique n'est pas seulement une manière, je dirais, de nous distraire du réel, de ne plus penser, par exemple, à la vieillesse et à la mort qui en est, si je puis dire, la conclusion, mais que le langage poétique et l'imagination nous permettent de voir différemment ce que nous vivons.
C'est pour ça que vous écrivez, c'est pour ça que vous dites dans un entretien avec Olivier Abel et Olivier Mongin, une conversation dans ce numéro d'Esprit, qu'il y a une tension entre l'imagination qui reproduit et celle qui ouvre la voie.
Oui, l'imagination, elle a deux fonctions traditionnelles. C'est la reproduction, effectivement, c'est-à-dire que bon, je vois un verre d'eau, puis je n'ai plus ce verre d'eau en face de moi, donc il n'y a plus de perception, et dans ce cas-là, je convoque l'image de ce verre d'eau. Bon, je prends aussi un exemple très simple, où j'ai un ami qui me manque, je pense à lui sous figure d'image, donc il n'est. Et alors là évidemment, ça c'est l'image reproduction, c'est-à-dire à partir d'un original, oui. Qui est mon ami Paul, bon, je n'ai plus que l'image de Paul. Alors là, évidemment, la plupart des philosophes insistent, quand ils critiquent l'imagination, sur cette fonction de reproduction, parce que, évidemment, il y a l'horizon, c'est le danger, c'est de confondre l'image de l'absence avec la personne elle-même. Et les délires de l'imagination, hein, c'est la fameuse formule de Malebranche, hein, l'imagination c'est la folle du logis, parce qu'on délire très vite avec l'imagination. Le délire principal de l'imagination consiste à confondre la réalité de la chose avec sa simple image. Bon. Alors évidemment, si on en reste donc à l'image comme reproduction, l'imagination est plutôt ce qu'il faudrait combattre, en quelque sorte, du point de vue de la raison, du point de vue de la philosophie. Ce qui intéresse Ricoeur, c'est beaucoup plus l'imagination, effectivement, créatrice, c'est-à-dire
la fiction créatrice,
celle qui effectivement, ouais, qui ne produit pas des tableaux, qui ne produit pas des copies de ce qui a déjà été perçu et qui n'est plus présent devant moi, mais celle qui crée des éléments de sens, des images, que ce soit picturales ou, on l'a vu tout à l'heure, linguistique avec la métaphore, un sens inédit. C'est-à-dire qu'il y a la fiction, ce n'est précisément pas la présence de l'absence, si vous voulez, c'est la création de quelque chose qui n'existe pas. Et au fond, il y a toute une réflexion de Ricoeur dans un autre cours qui a été publié, qui est parallèle à celui-là sur l'imagination, qui s'appelle « Idéologie et utopie ». Dans ce cours, il s'interroge justement sur ces deux pôles de l'imaginaire social, collectif cette fois-ci, l'idéologie qui reproduit toujours les mêmes images de ce que c'est que, par exemple, l'idéologie de la nation française, de la religion chrétienne, c'est-à-dire ce qui fait tradition en un sens. Et l'autre pôle, c'est l'utopie qui, elle, nous mène ailleurs. Elle, là, on est dans le pôle de la fiction. L'utopie, c'est ce qui, par l'imagination, me déplace dans un ailleurs qui n'existe pas. Le propre d'une utopie, c'est qu'elle n'est pas ou qu'elle ne fait pas référence à ce qui a déjà été, ni à ce qui est déjà, mais elle fait référence à ce qui pourrait être et serait autre du point de vue de l'organisation de la société, par exemple, ou de l'organisation de nos propres existences.
En tout cas, Michael Fossal, l'imagination est liée à l'être humain.
Elle est liée à sa liberté. Elle est liée à la condition humaine, je dirais à sa finitude, au sens où, pour Ricoeur, on ne peut pas penser de manière purement abstraite, c'est-à-dire sans convoquer des images. Nous sommes des êtres sensibles. Et l'imagination, elle est justement cette faculté qui est, en quelque sorte, au milieu entre la perception sensible, je vois les choses ou je les sens de manière corporelle et sensorielle, et puis l'entendement, le concept, l'abstraction. Entre ces deux termes, et d'ailleurs pour pouvoir les relier, entre le concept que je peux avoir de ce que c'est qu'un chien. Donc on va définir ce concept du chien comme le quadrupède aboyant. Hein. Dès qu'il y a un quadrupède qui aboie, c'est un chien. Et puis le caniche, le doberman, etc. que je perçois, il faut bien que je sois en mesure de relier ces deux choses pour pouvoir reconnaître. Chaque fois que je prends un exemple un peu caricatural, mais c'est celui qu'avait pris Kant, qui est très présent dans ce Emmanuel Kant, qui est très présent dans ce cours de Ricoeur, et bien c'est l'image que je vais avoir du chien qui va me permettre en quelque sorte de reconnaître le général sous le particulier. Donc l'imagination est fondamentalement liée à l'humanité, effectivement, au sens où nous ne pouvons pas penser sans image. Encore faut-il évidemment ne pas confondre l'image de ce que nous pensons avec la chose que nous pensons.
Michael Fossal, j'ai l'impression qu'on n'en finit pas de redécouvrir, enfin de découvrir Paul Ricoeur, en fait. Comme s'il était encore non seulement présent, mais comme s'il y avait encore beaucoup de choses à explorer dans sa pensée.
Il y a beaucoup de choses à explorer encore dans sa pensée, déjà apparu. Il y aura aussi certainement beaucoup de choses à explorer dans ce qui n'est pas encore été publié de lui. Il y a des archives, le fond Ricoeur, comme on dit, qui sont pleines, je l'ai dit, Paul Ricoeur était un grand professeur, qui sont pleines de cours très nombreux qu'il a tout au long de sa carrière, qui a été longue, qu'il a donné. Et puis pour ce qui est de son œuvre elle-même, il y a beaucoup de choses évidemment encore à découvrir, parce que de son vivant, je dirais, il était reconnu certes, mais c'était une période aussi où il existait en philosophie, donc dans les années, disons, des années 50 aux années 70-80 en tout cas, une sorte de prime à des pensées plus, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, radical, enfin je dirais une prime à des pensées, pas seulement dans l'ordre politique, mais qui allaient directement aux choses mêmes, à la phénoménologie. On pense aux gens comme Derrida, l'exigence de déconstruction, ou dans le champ politique, des philosophes comme Althusser qui s'inscrivaient directement dans le marxisme. Or, Ricoeur, c'est l'art du détour. C'est l'art du détour et c'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, a une philosophie qui pourrait apparaître plus humble, moins radicale en ce sens que d'autres penseurs comme Deleuze aussi qui allait directement, je dirais, dans l'ontologie de la vie. Donc c'est une philosophie qui est affirmative, mais sur un mode mineur. Donc elle dit des choses. On peut penser différemment avec Ricoeur le temps. Il a écrit un magnifique livre en 3 volumes qui s'appelle « Temps et récit ». Mais rien que le titre, vous voyez, « Temps et récit », c'est déjà pour dire si je veux comprendre l'essence du temps, ce qui est une question philosophique ancestrale, si je puis dire, eh bien, il faut que je passe par le détour du récit, de la mise en forme du temps, aussi bien dans le récit littéraire que dans le récit historique. Autrement dit, c'est une philosophie qui, d'une certaine manière, demande toujours plus d'efforts, promet moins, mais tient peut-être davantage que des philosophes qui promettent d'emblée de comprendre l'essence, par exemple, du temps, mais qui, au fond, et finalement, achoppent sur de grandes difficultés.
Et pour terminer, on va boucler la boucle. On a commencé avec son livre, 75, après 68. C'est pour ça, c'est à cause de ce recul, Michael Fossel, qu'en 68, précisément, dans les années 68, il a eu des difficultés avec ce qu'on appelait la révolution et qu'il a fini par subir lui-même lire des étudiants, non ?
Il y a une scène célèbre mais un peu légendaire. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé.
Où, de la poubelle.
Quand il était à Nanterre, un étudiant a jugé bon de lui mettre une poubelle sur la tête. Le mouvement de contestation des professeurs d'université était généralisé. Hein, il ne s'est pas spécialement focalisé sur Ricoeur. Maintenant, c'est vrai que Ricoeur. En plus, c'était à Nanterre, donc au point de départ, si je peux dire, de la révolte. Mais Ricoeur a tout de même reconnu la légitimité de cette espèce d'insurrection de l'imagination, finalement, qu'aura été mai 68, même s'il est traversé, comme souvent nous sommes traversés, par une contradiction, c'est-à-dire à la fois apporter à l'imagination ou reconnaître à l'imagination sa pouvoir de contester le réel, imaginer un autre monde, et aujourd'hui nous avons beaucoup plus de mal à le faire qu'en 68, mais c'est aussi un philosophe de l'institution, qui pense que l'université, mais aussi peut-être l'État, constituer des éléments qui permettent de lier les individus les uns aux autres. Alors, l'imaginaire totalement utopique et anti-institutionnel de 68 n'était pas le sien. Il a pu, à certains moments, effectivement, le subir, ce qui a fait qu'il est parti aux États-Unis, mais où il y a eu aussi un mai 68, d'ailleurs. Enfin, un 68, en tout cas.
Et on pourrait dire aujourd'hui, heureusement, parce que ça a été prolifique, ce séjour.
Alors, comme Ricoeur était effectivement très curieux de l'altérité, il a, au moment où il est parti aux États-Unis, découvert le continent de la philosophie américaine et continentale, et il a fait une chose qui est assez rare et qu'il était à son époque et qu'il est demeuré d'ailleurs, il a fait dialoguer la philosophie dite continentale, c'est-à-dire européenne classique, de Descartes, enfin de Platon à Heidegger si on veut, avec la philosophie dite analytique, Wittgenstein et autres. C'était un philosophe qui a essayé non pas de faire des synthèses à tout prix, mais de mettre en dialogue, de faire travailler des traditions diverses pour produire un sens nouveau.
Merci Michael Fossel de nous avoir éclairé. Donc il faut lire ce dossier, Paul Ricoeur, les pouvoirs de l'imagination, dans le numéro d'Esprit de ce mois de mai 2024. Seconde partie de ce magazine et nous allons parler de tout autre chose, quoique. Après les pouvoirs de l'imagination, parlons maintenant avec vous de la révolution bambou, en quelque sorte, Jeanne Pham Tran. Vous êtes éditrice et auteure notamment de ce livre, Paris aux éditions des Équateurs. Et pour vous, le bambou est au cœur de la philosophie, il est au cœur de la culture. Vous écrivez, il s'agit d'une passerelle souple entre l'utile et le beau, entre la nature et la culture, entre l'Est et l'Ouest, entre la botanique et la poésie, entre le moi et le monde.
Oui, merci.
Tout cela.
Oui, c'est vaste. C'est vrai qu'au départ, en Asie notamment, on peut dire qu'il a existé une civilisation du bambou. Le terme n'est pas de moi, chercheurs, des préhistoriens l'ont qualifié ainsi, puisque à l'époque où en Europe, en Occident ou en Afrique, on taillait plutôt les pierres, en Asie, on a retrouvé des galets qui visiblement taillaient des végétaux et plus spécifiquement des bambous. Et de cette utilisation d'une plante pour la transformer en matériaux est née aussi toute une série de réflexions, peut-être déjà philosophiques, ontologiques en tout cas, et de projections de l'humain, entre humain et bambou. Donc l'humain, très tôt, en fait, s'est en quelque sorte identifié au bambou, ou s'est regardé comme dans un miroir dans les bambous.
Alors, il y a une fascination du bambou, Jeanne, mais vous me disiez avant l'émission qu'en Asie, le bambou était en revanche très déconsidéré.
Alors ça, c'est très récent. En effet, après cette immense et très longue période des siècles d'utilisation, de civilisation du bambou, on peut constater depuis une trentaine, une quarantaine d'années en Asie, un grand mépris du bambou. Qui s'explique très simplement. Le béton, on peut dire, l'acier, le plastique sont apparus à peu près à ce moment-là. Et ils sont symboles, évidemment, de modernisation, d'occidentalisation. Et on peut comprendre que l'Asie, avec tout le développement économique assez fulgurant qu'elle connaît depuis une vingtaine d'années, s'est jetée, en quelque sorte, dans la bétonisation de ces villes. Méprisant par la même occasion les végétaux, le bambou, enfin ces végétaux extrêmement utiles et natifs de cette région. Et c'est un désastre évidemment écologique d'avoir fait ça, puisque c'est des régions, notamment dans l'Asie tropicale, où il fait particulièrement chaud, où le réchauffement climatique est particulièrement important, oui. On va dire. Et c'est là qu'ils ont pris ces décisions de bétonner les villes. Donc c'est vrai que c'est un petit peu préoccupant. Moi, j'ai été frappée, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce livre, puisque j'habite désormais en Asie, c'est d'avoir constaté ce hiatus entre une région où le bambou est en tant que plante absolument partout autour de moi, mais n'est plus utilisé, notamment en construction, qui est un des postes de pollution les plus importants au monde, alors qu'en Europe, où le bambou n'est pas du tout natif, c'est le seul continent où il n'y a pas de bambou naturellement, eh bien, on s'intéresse notamment aux vertus écologiques du bambou.
Il y a comme un décalage, effectivement, Jeanne Pham Tran. Dans ce livre qui est très riche, Révolution bambou, vous avez un chapitre consacré à la philosophie, et notamment à ce que vous appelez la philosophie du rhizome. Il faut rappeler que le bambou pousse à partir de rhizomes, c'est-à-dire de racines qui s'étendent, et à partir de ces racines pousse le bambou. Et évidemment, Michael Fossel vous écoute avec attention. Le rhizome, ça a beaucoup inspiré, vous le soulignez dans le livre, Gilles Deleuze et Félix Guattari, par exemple, qui écrivaient ceci: un rhizome ne commence et n'aboutit pas, il est toujours au milieu, entre les choses, inter-être, intermezzo, l'arbre est filiation, mais le rhizome est alliance, uniquement alliance.
Oui, c'est dans ce texte qui s'appelle « Mille plateaux » que Deleuze et Guattari ont vraiment réfléchi au rhizome. Alors, de façon générale, moi, je me concentre un peu plus sur le bambou. Mais pour revenir sur vraiment la forme rhizomatique qui nous aide à comprendre cela, ça va au-delà des simples racines, puisque tous les arbres ont des racines aussi qui peuvent s'étendre. Le rhizome, c'est des racines qui poussent vers le sous-sol, mais c'est aussi des projections de tiges qui donnent de nouveaux chaumes, de nouveaux bambous, si je puis dire. Les chaumes, faut rappeler que le bambou est une herbe et non un arbre. Et c'est une herbe
Merci
rhizomatique.
Pour la précision.
C'est une herbe rhizomatique, donc qui donne tout à coup de nouvelles tiges et qui, comme ça, s'étend d'une façon presque comme en réseau. D'où cette idée d'alliance aussi et de communication, de réciprocité. En fait, les vieux chaumes, on va les appeler comme ça puisque c'est le terme scientifique, vont laisser place aux jeunes. Et les jeunes vont tout à coup aspirer toute l'eau, tous les nutriments, etc., dont ils ont besoin. Les vieux vont petit à petit laisser la place aux jeunes. Donc il y a comme la composition d'une famille qui est très intéressante dans le bambou et qui peut même être un exemple de société. C'est un petit peu dans ce sens-là que Deleuze et Guattari l'expliquent. Ils proposent de prendre modèle sur cette société beaucoup plus horizontale je peux dire avec eux, faites rhizome et non racine, en quelque sorte.
Même si certains, les jardiniers, notamment en Europe, en France singulièrement, disent que c'est parfois, le bambou est un peu envahissant parfois.
Oui, alors le bambou peut paraître envahissant en Europe, puisque les bambous que nous avons en France viennent de Chine. Ce sont des bambous de régions tempérées. Les bambous de régions tempérées sont souvent, hélas, traçants, c'est-à-dire expansifs, alors que les bambous tropicaux, par exemple, poussent en bouquets, en touffes, et ne le sont pas du tout. Donc ça vient aussi du fait qu'on a importé en Europe des plantes qui ne viennent pas véritablement d'ici.
Alors le bambou comme métaphore de la vie, le bambou qui est également l'objet de vénération de la part des poètes.
Oui, des poètes et puis de personnes spirituelles, on va dire. En Asie, ça fait partie de mes sources de réflexion aussi. Dans cette fameuse civilisation du bambou en Asie, on avait intégré le bambou comme une plante sacrée. Donc le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme, même le shintoïsme ou l'animisme inclut le bambou dans toutes ces traditions qu'on peut dire religieuses mais aussi philosophiques, puisque cette plante est particulièrement étrange vu qu'elle est vide à l'intérieur. C'est une herbe creuse et on connaît peut-être pour certains des auditeurs tout ce qu'a donné la philosophie du vide et du plein, notamment dans le taoïsme. Le vide, cette vacuité, n'est pas du tout négative dans ces philosophies-là. C'est, en tout cas dans le taoïsme, cette vacuité est la source, justement, de l'éveil.
Le vide qui n'empêche pas la solidité.
C'est le vide qui n'empêche absolument pas la solidité. Alors la solidité physique
du bambou, mais ne rompt pas.
Le bambou plie mais ne rompt pas.
Comme le roseau de la fontaine.
C'est une plante qui a cette capacité physique extraordinaire, technique, d'être à la fois extrêmement dure, solide et extrêmement souple et même capable de torsions fabuleuses, notamment si c'est chauffé. Et ça a été très inspirant, évidemment, pour les êtres humains aussi. C'est presque yogi comme posture d'imaginer qu'on peut, comme le bambou, faire preuve d'une certaine fermeté, intégrité intellectuelle ou d'âme, etc. Et en même temps, de souplesse. Peut-être que c'est les qualités, enfin les vertus les plus hautes, en tout cas dans la philosophie chinoise.
J'en reviens à la poésie, Jeanne Pham Tran. François Cheng, qui est grand poète, écrivain, calligraphe aussi, écrit ceci, et c'est dans votre livre. On sait que la tige de bambou porte en son extrémité de longues feuilles fines et mobiles. Lorsque passe une brise, elles produisent des sons susurrants et mélodieux. Poètes et peintres aiment à demeurer assis au milieu des bambous, à laisser leur méditation bercée par cette musique intime. Le sommet du bambou rayonne ainsi d'une qualité suprême, la grâce du recueillement et du chant.
Oui, en fait, dans toute la tradition bouddhiste, zen notamment, c'est un petit peu à cela que se réfère, je pense, François Cheng, et chez les taoïstes aussi. Il est très féru de philosophie taoïste. le bambou est une source de méditation. C'est vraiment un instrument pour les moines pour méditer. Donc on peut soit jouer de la flûte en bambou et par ce chant accéder à un état d'éveil, soit se promener dans les forêts de bambou. Ça participe aussi de l'éveil, mais simplement les regarder, les peindre. Il y a tout un chapitre aussi où je parle de la peinture de bambou. Et il se trouve qu'en Asie, les moines avant étaient à la fois des lettrés, des peintres, des poètes. Et en peignant les bambous, ils devenaient eux-mêmes bambous. Un petit peu comme Paul Ricoeur, ça demande un peu d'imagination pour se projeter. Et il faut absolument, probablement, se devenir soi-même cette plante, entrer dans cette pensée-là pour réussir à le peindre de la façon la plus juste possible.
Idée.
Vous écrivez ceci, Jeanne, au IXe siècle, alors qu'il est banni du gouvernement, le moral abattu, le poète chinois Bai Jui décide de se retirer à la campagne et de cultiver des bambous. « Que pouvais-je faire ?» écrit-il, « pour soulager un cœur rustique. J'ai planté des bambous plus de 100 pouces. »
Oui, c'est un très beau passage de Bai Jui, en effet, qui intervient dans un chapitre où j'évoque le calme des bambous et cette sensation... qui a été étudié même au Japon notamment, de se retrouver au cœur d'une forêt, que ce soit d'arbres ou de bambous finalement, et d'en tirer des bénéfices thérapeutiques. En japonais, ça s'appelle le shirinyoku, le bain de forêt. Il se trouve que dans une forêt de bambous, je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, on peut aller en France dans une très belle bambouseraie dans les Cévennes où j'ai ressenti ce genre de choses. On a presque, avec le bruit très infime des feuilles, le sentiment, un sentiment qu'on pourrait dire océanique même, le sentiment d'une plongée dans un univers un petit peu utérin même. C'est très particulier comme sensation. Ça participe évidemment de calmer les humeurs, d'apaiser le cœur, etc. Donc ce poème fait référence évidemment aux vertus thérapeutiques du bambou, à cette notion-là.
Donc je conseille à chacune et à chacun de nos auditeurs, auditrices, d'aller se promener dans une forêt de bambou pour retrouver la sérénité indispensable. Et, moins serein, il y a aussi, et vous le développez dans le livre, ce que vous appelez la diplomatie du bambou.
Oui, alors la diplomatie du bambou, là on vient sur un terrain un peu géopolitique, mais ce n'est pas un terme qui est de moi, encore une fois. Il a été prononcé par un secrétaire du Parti communiste vietnamien pour qualifier son propre gouvernement. Donc on a bien vu que le bambou est très solide à la base et très souple dans les hauteurs, et c'est ainsi qu'il qualifie le gouvernement vietnamien. C'est aussi ainsi que se qualifie le régime thaïlandais, ou qu'il est qualifié parfois par d'autres. C'est des petits pays, c'est des régimes qui ne sont pas extrêmement forts, ni en termes militaires, ni économiques finalement, mais qui ont besoin de se placer un petit peu dans le giron de plus grands pays que sont en ce moment les États-Unis ou la Chine, et comme ça d'osciller entre ces deux puissances. Alors certains appelleront la diplomatie du bambou du suivisme ou une sorte de versatilité. Eux, ils appellent ça la diplomatie du bambou.
Alors donc, il faut méditer avec les bambous. Vous écrivez « Quand Krishna souffle dans sa bansuri, une grande flûte traversière en bambou, il se relie au sacré dans la pensée hindouiste. »
Oui, c'est vrai.
C'est un lien avec les divinités.
C'est un lien avec les divinités. Un des axes de mon livre, en effet, c'était de comprendre que le bambou est une herbe et un matériau qui nous offre une multiplicité d'entrées possibles. On s'intéresse à l'art, à la poésie, comme vous l'avez vu, qu'on s'intéresse à la construction, qu'on s'intéresse à la médecine même, ou à l'alimentation, puisque ça se mange aussi, qu'on s'intéresse à la philosophie, à la spiritualité. Tout ça sont des portes d'entrée extraordinaires pour le bambou, même en géopolitique, on vient de le voir. Ce qui est fabuleux, c'est d'imaginer que cette plante nous relie, du coup, au vivant, de façon générale, par toutes ces portes d'entrée possibles. Donc c'est un matériau assez idéal aujourd'hui, où on se sent de plus en plus en déconnexion par rapport au vivant, pour entrer de façon très ludique. Si on a envie de construire une cabane dans son jardin, on peut la faire en bambou.
Et, vous, et vous-même, quelque part en Asie, Jeanne Famtran, vous êtes environnée de bambou, j'imagine.
Oui, oui. Là où je vis, en Thaïlande, il y a des bambous, en effet. Et c'est à force de les étudier, de les observer, que j'ai constaté même qu'on pouvait développer une écoute, et on en a parlé un petit peu, mais aussi développer le regard. Là-dessus, je me suis beaucoup appuyée sur les travaux de quelqu'un comme Michel Serres, ou Vinciane Després, Baptiste Morisot, qui...
autant de philosophes qui s'intéressent, aux questions de l'environnement au sens large, en fait, de la nature.
Toute cette philosophie du vivant. Et il se trouve que le bambou qu'il y a dans mon jardin en Thaïlande, il est doré, quasiment, un jaune très vif comme ça, avec des stries vertes, à des sortes de rythmes très étonnants, ce qui forme comme une partition, quasiment. En tout cas, il y a quelque chose qui est raconté, je pense, dans ces chaumes que je ne comprends pas complètement, que je n'arrive pas à décrypter. Mais il est vrai que plus on le regarde, plus on l'observe, plus on peut se demander, et on peut faire jouer l'imagination pour ça, ce que la nature nous raconte, en fait, dans ses dessins qu'elle a faits d'une façon absolument délicate, merveilleuse. Certains disent que ça ressemble à des codes-barres, mais c'est vrai qu'il y a des stries fines, des stries très épaisses, à des rythmes très étonnants, qu'il y a quelque chose de presque musical quand on regarde ses dessins. Et il y a surtout quelque chose de scriptural. Enfin, moi, je me demande, en observant ce bambou, ce qu'il a écrit sur lui-même, ce qui est tatoué sur sa peau.
Merci Jeanne Famtran, ça nous donne envie d'aller voir votre jardin, mais c'est un peu loin. Révolution bambou, c'est le titre de votre essai publié aux éditions des Équateurs. Michael Fossel, vous écoutez avec passion. Et je rappelle que la revue Esprit, nous en avons parlé tout à l'heure avec lui, consacre son dossier de mai à l'imagination chez le philosophe Paul Ricoeur. Ainsi s'achève ce numéro d'idées, réalisé comme tous les autres par Vanessa Rovansky. Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez sur l'application RFI Pure Radio, le site de la radio et votre plateforme numérique préférée. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI.